Je voudrais commencer par quelques paradoxes. Le premier, c'est que l'œuvre la plus célèbre et qui historiquement a le plus marqué de Marx est Le Capital. Ça n'est pas en vérité l'œuvre la mieux connue, puisque les personnes qui ont lu l'intégralité des quatre livres du Capital sont peu nombreuses. Et beaucoup de ceux qui ont lu Le Capital se sont en fait arrêtés au livre 1, qui est le seul qui a été publié du vivant de Marx. Mais surtout, le Capital ne parle pas de la Révolution. Le deuxième paradoxe, c'est que le texte où Marx parle plus clairement de la Révolution, c'est un texte qu'il a coécrit avec Engels, le Manifeste du Parti communiste, publié juste avant la Révolution de 1848. C'est un texte qui est antérieur au Capital et qui expose une idée de la Révolution que Marx lui-même va être amené à reprendre et en fait à renverser à la fin de son parcours en 1872, lorsqu'il écrira un texte consacré au bilan de la Commune dans un livre intitulé « La guerre civile en France », publié donc en 1872, écrit en anglais et traduit en allemand par Engels. C'est un détail qui n'est pas sans importance. Ça veut dire que ce texte, qui commente un événement qui s'est passé en France, est un texte qui est écrit dans la langue qui est devenue, pour Marx, la langue des pays qui vont faire l'histoire, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis. Et ce texte, ce n'est pas un livre, c'est un texte, est postérieur au Capital. Et la doctrine de la Révolution qui est déployée contredit la doctrine du manifeste, ce qui veut dire que le Capital, bien qu'il ne parle pas de la Révolution, amène à modifier, à renverser la conception de la Révolution que Marx va considérer comme la sienne. Le troisième paradoxe, mais il s'éclaire une fois qu'on a lu le dernier texte que j'ai évoqué, La guerre civile en France, c'est que, en vérité, Marx n'a été témoin d'aucune révolution. Parce qu'il va être amené à considérer que la révolution de 1848, qui a parcouru l'Europe, n'en est pas une. Je ne parle même pas de celle de 1830, qui n'a pratiquement pas compté à ses yeux. Je parle de révolutions qui ont couvert l'Europe. 1830 a couvert l'Europe, 1848 a couvert l'Europe. Ce sont donc des événements de grande extension qui concernent l'espace et qui ont été considérés comme des révolutions. Et Marx va considérer, à partir du Capital, donc vers 1860, et en tout cas c'est ce qui s'exprime dans son texte de 1872, que ce ne sont pas des révolutions, que la Commune a échoué parce qu'elle n'avait pas compris ce qu'était une révolution, ce qui veut dire que la doctrine finale de Marx concernant la révolution repose sur la non-expérience, ou plus exactement sur l'expérience de ce qui n'est pas une révolution. C'est l'expérience de l'inexistence des révolutions au XIXe siècle par comparaison à la réalité de la Révolution française. C'est dans cette espèce de faille que va se situer la doctrine marxiste de la Révolution, celle qui va donner lieu au marxisme-léninisme et au développement du XXe siècle. Puisque, dernier paradoxe, Marx, je rappelle ses dates de naissance et de mort, est né en 1818 à Trèves, en Rhénanie, et il est mort en 1883 à Londres. C'est donc absolument un homme du XIXe siècle. Et pourtant, l'influence de sa doctrine, d'une part la doctrine économique et d'autre part de sa doctrine politique et notamment de la doctrine de la Révolution qui fait partie de sa doctrine politique, cette influence, ce déploiement se situe au XXe siècle. Moyennant l'opérateur que représente Lénine qui va transformer le marxisme en marxisme-léninisme et va donner au marxisme ce statut qui était vrai quand j'ai commencé à avoir une activité intellectuelle, disons, et politique, dans les années 1960, on pouvait écrire que le marxisme était la langue commune de tous les intellectuels révolutionnaires du monde et que c'était la langue commune de la plupart, pas de tous, mais de la plupart des mouvements révolutionnaires du monde. Cette position est en rupture chronologique avec la situation chronologique de Marx, qui n'est pas, et là je voudrais faire une dernière remarque, qui n'est pas une remarque paradoxale, les précédentes relèvent du paradoxe, mais celle-ci n'est pas une remarque paradoxale, elle concerne ce que j'appellerais l'écriture du XIXe siècle. Il y a quelque chose de très particulier à l'écriture du XIXe siècle en Europe occidentale, et évidemment aux États-Unis, mais sans doute, mais là je ne suis pas expert en Amérique latine, c'est que c'est l'écriture qui, pour la première fois, découvre la possibilité qu'il n'y ait pas de persécution. Je m'explique. Léo Strauss avait développé l'idée qu'il existait un art d'écrire sous la persécution. Cet art d'écrire, à ses yeux, il avait un certain nombre d'arguments, pas autant qu'il le pensait, mais malgré tout, se reconnaissait chez les écrivains du XVIe siècle, chez les écrivains du XVIIe siècle, chez les écrivains du XVIIIe siècle. Il soutenait que, par exemple, l'Esprit des lois de Montesquieu était écrit avec comme horizon la persécution possible, persécution voulant dire emprisonnement, exil, éventuellement condamnation à mort. Je rappelle qu'en France, sous le règne de Louis XV, le chevalier de la Barre a été condamné à mort, qu'il a eu la langue arrachée, qu'on a cloué sur sa poitrine un exemplaire d'une œuvre de Voltaire, ceci en plein XVIIIe siècle. Ça veut donc dire que la persécution est à ce moment-là quelque chose qui est un horizon. Le XIXe siècle, dans l'Europe occidentale, après la Révolution française, et je pense que c'est une des grandes victoires de la Révolution française, et c'est celle dont on ne parle jamais, a rendu la persécution obsolète pour un temps en Europe occidentale et dans l'espace que j'appellerais l'espace atlantique. Évidemment, ça n'est pas vrai pour la Russie. Je parle bien de l'Europe occidentale et de l'espace atlantique. Or, s'il y a un art d'écrire sous la persécution, il doit y avoir un art d'écrire sans la persécution. Et le XIXe siècle découvre cet art d'écrire. Les auteurs sont en vérité en position de devoir inventer cet art d'écrire, ce qui donne aux grandes œuvres du XIXe siècle, que ce soit Marx, que ce soit Darwin, mais que ce soit aussi les romanciers, je pense à Zola ou je pense à Proust, écrire sous l'hypothèse de l'obsolescence de la persécution. Cela donne à l'écriture de Marx, puisque c'est de lui que je vais parler aujourd'hui, une caractéristique tout à fait singulière qu'il faut retrouver, parce que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, de la même manière au XXe siècle, plus exactement après la fin du XXe siècle et au début du XXIe, que nous pouvons écrire de la même manière à l'horizon de l'obsolescence de la persécution. La persécution semble plutôt une forme qui a de l'avenir plutôt qu'une forme obsolescente. Il faut garder cela en mémoire pour comprendre les écrivains au sens large du XIXe siècle, qu'il s'agisse de Marx ou qu'il s'agisse de Proust. C'est quelque chose que nous risquons de ne plus saisir. Lorsque Marx, traduit ensuite par, en collaboration ensuite avec Lénine, avec Engels, écrit le manifeste du Parti communiste, la révolution est l'axe de son texte. Qu'est-ce qu'il entend par là, à ce moment-là? C'est un écrivain allemand. Et pour tous les écrivains allemands de cette période, première moitié du XIXe siècle, la question qui les touche au cœur, c'est la question de l'unité allemande. Et Marx a acquis la conviction qu'il n'y aura d'unité allemande que par une révolution qui changera les rapports sociaux. Or, à ses yeux, comme aux yeux d'Engels, ce qui va faire, peut rendre possible une révolution, c'est que les écrivains allemands se mettent à l'école de la capitale des révolutions, qui est aussi du même coup la capitale du XIXe siècle, à savoir Paris. Et c'est pourquoi Marx va faire le voyage avec l'intention de s'installer à Paris peu de temps avant la Révolution 1848. Il va lancer une revue qui s'appelle « Les Annales franco-allemandes » qui durera un an parce que le gouvernement de Louis-Philippe va l'interdire de séjour. Et c'est à ce moment-là qu'il va quitter Paris pour Londres. Mais la Révolution, c'est quelque chose qui concerne d'abord l'Allemagne et la possibilité que l'Allemagne soit enfin unifiée. ce qu'il va apprendre à Paris, et il va l'apprendre par la rencontre avec Engels, c'est qu'il n'y a pas de révolution possible, y compris au sens qu'il lui donnait au départ, révolution qui permettrait l'unité allemande, en se mettant à l'école de la France, du coq gaulois, comme il dit, il n'y a pas de révolution possible sans analyse de ce qui est en train de se passer sous ses yeux, à lui, Marx, et dont il n'avait aucune idée avant d'arriver à Paris et avant de rencontrer Engels, à savoir une révolution économique. Il n'avait absolument pas perçu, vivant en Rhénanie, dans un milieu universitaire, il n'avait absolument pas perçu que ce qui était en train de se passer, c'était une révolution économique dont l'acteur majeur était la bourgeoisie qui renversait tous les rapports sociaux antérieurs, ce qui fait que considérer que la révolution devait combattre la bourgeoisie était une position insuffisante si elle ne comprenait pas d'abord que la bourgeoisie était elle-même une classe révolutionnaire, qu'elle l'avait été au sens politique en 1789 et qu'elle l'était au sens économique en 1848, enfin au milieu du 19e siècle. C'est ce qu'il apprend d'Engels, à savoir que la bonne clé pour ouvrir la porte de la révolution est coulée dans le métal de l'économie politique. Et non pas, comme Marx le croyait précédemment, dans le métal de la philosophie allemande, et notamment de la philosophie dialectique, la philosophie hegelienne. C'est à Paris, par la rencontre avec Engels, qu'il va considérer que Hegel est un moyen d'expression, un moyen d'une sorte de cosmétique, de style, mais que le véritable moteur de la pensée révolutionnaire, c'est l'analyse du processus économique. C'est dans l'économie qu'il se passe des nouveautés qui n'ont pas de précédent, et non pas dans la philosophie politique. Projeter la science économique sur la théorie politique, tirer les conséquences politiques des changements radicaux qui se passent dans le domaine économique, voilà le projet qui commence à habiter le manifeste du Parti communiste et qui va, après l'échec de la révolution de 1848, l'échec européen de la révolution de 1848, lequel échec européen est plus particulièrement un échec en Allemagne, où la révolution de 1848 a été extrêmement importante et se termine sur une déception dont une génération entière ne s'est pas relevée. Le destin de Wagner en a été transformé, le destin politique de Wagner en a été transformé, l'échec de 1848 l'a fait renoncer à la politique. Je pourrais donner d'autres exemples. Il faut donc tirer les leçons de l'échec de 1848, mais ces leçons, on sait déjà comment on va pouvoir les tirer. Il faut mettre au net, point par point, l'articulation qui va permettre de projeter l'analyse des transformations économiques sans précédent que le XIXe siècle a commencé de mettre en place et les conséquences politiques que ces transformations économiques peuvent avoir. Le capital, je veux dire l'œuvre intitulée « Le capital » prend son titre de la prise de conscience que Marx opère à Paris grâce à la rencontre avec Engels, que la grande invention du XIXe siècle, ça s'appelle précisément le capital. Le capital est quelque chose qui n'avait pas d'existence précédemment. Pourquoi ? Parce que le fondement du capital, c'est le salariat, et que le salariat n'est devenu la forme générale de rétribution du travail que à partir du XIXe siècle. Dans le manifeste qui résume, si vous voulez, l'état de sa pensée et de celle d'Engels, le dernier paragraphe est très analytique. L'existence et la domination de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle l'accumulation de la richesse aux mains des particuliers. Virgule, la formation et l'accroissement du capital. La condition d'existence du capital, c'est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Mais, c'est moi qui l'ajoute, le progrès de l'industrie, dont la bourgeoisie est l'agent, sans volonté propre et sans résistance, substitue à l'isolement des ouvriers résultant de leur concurrence, leur union révolutionnaire par l'association. Ainsi, le développement de la grande industrie sape sous les pieds de la bourgeoisie le terrain même sur lequel elle a établi son système de production et d'appropriation. Et là arrive une phrase célèbre. Avant tout, la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs, sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Autrement dit, la nouveauté du XIXe siècle, c'est le capital. En tant que le capital est fondé sur le salariat. Et ce qui permet au salariat de s'imposer de manière universelle, c'est l'industrialisation. Mais l'industrialisation produit la concentration des ouvriers. À partir du moment où les ouvriers sont concentrés, alors ce qui faisait leur faiblesse, c'est-à-dire leur isolement et leur concurrence entre eux, qui les conduisait à accepter la rémunération la plus faible possible, cet isolement cesse dans l'espace de la concentration. Autrement dit, puisque la bourgeoisie ne peut pas ne pas vouloir le développement du capital, elle ne peut pas ne pas vouloir le développement de la grande industrie, et donc elle ne peut pas ne pas vouloir la concentration ouvrière, et donc elle ne peut pas ne pas vouloir ce qui va conduire à sa perte. Voilà le noyau de la pensée du manifeste. Ce noyau-là va être déployé dans le capital. Je ne vais pas entrer dans les technicités, mais comprenons bien que tout ce qui vient d'être dit sous forme ramassée en un paragraphe va donner lieu à un développement sur 4 livres de plusieurs milliers de pages. L'élément qu'il faut, je crois, saisir, c'est la nature du salariat. La nature du salariat, c'est que le salariant, si j'ose dire, l'employeur, ne paye pas le produit. Il paye ce qui va rendre le produit possible. Autrement dit, il achète, c'est un marché, mais c'est un marché où il n'achète une marchandise qui n'est pas matérialisée encore, mais qui va se matérialiser sous la forme de matière vendable. Ce qu'il achète, c'est une force de travail. Le salarié est un vendeur, il vend la seule chose qu'il possède, à savoir sa force de travail, et il reçoit en échange le prix de vente de sa force de travail, qui est calculé comment ? Eh bien, puisque ça n'est pas matérialisé, le seul moyen de calculer, c'est effectivement la concurrence. Alors il y a un minimum entre lequel la rationalité économique finit par ne pas descendre, c'est-à-dire le minimum qui permet au propriétaire de la force de travail de la renouveler. Il faut que l'ouvrier puisse, il s'agit de l'ouvrier en l'occurrence, il faut que l'ouvrier puisse bénéficier de la somme minimum qui lui permet de renouveler sa propre force de travail. Par opposition, si vous voulez, à l'esclave, dans l'esclavage, la mort de l'esclave fait partie de l'esclavage. L'allemand a un avantage sur le français, c'est qu'il distingue entre le mot sclave, qui est l'esclave de masse, et le mot qu'on traduit par esclave, qui désigne en fait un serviteur. Effectivement, un patron, un maître qui n'a 2 ou 3 serviteurs, il a besoin qu'il continue d'exister. Mais si vous pensez à l'esclavage antique, où il s'agit de sklaven, c'est-à-dire d'esclaves de masse, vous avez des milliers d'esclaves, ou en tout cas des centaines. Et là, la mort de l'esclave fait partie du système lui-même. Dans le système du salariat, pas du tout. Le propriétaire de la force de travail doit vivre et on doit le payer de telle façon qu'il continue de vivre. Pas plus qu'il ne faut, mais au moins cela. Et tout le système repose sur le fait que le prix final de vente du produit de la force de travail est supérieur à l'addition du prix des matières premières, du prix des machines et du prix de la force de travail. Autrement dit, si vous analysez le prix de ma montre, 10 marks, vous aurez évidemment les matières premières, vous aurez le brevet à payer, vous aurez, et puis il y a la force de travail des ouvriers, ouvrières japonaises, je pense en l'occurrence, qui ont travaillé à la chaîne. Et eh bien, le prix que j'ai payé cette montre, n'est pas égal, il est supérieur au prix de tous ces éléments combinés. Et là où l'inégalité est la plus marquée, c'est en ce qui concerne la force de travail. La force de travail est systématiquement sous-payée par rapport aux produits qu'elle engendre. Parce que la force de travail, parmi les objets du monde, a une singularité qu'elle est la seule à posséder, c'est qu'elle peut créer de la valeur. Une machine, dit Marx, ne crée pas de la valeur. Elle ne crée de la valeur que pour autant qu'elle est en quelque sorte la cristallisation d'une force de travail incluse en elle. Mais en tant que machine réduite à sa matérialité brute, elle ne crée pas de la valeur. Seule la force de travail crée de la valeur, et cette valeur qu'elle crée n'est pas payée, parce que ce que l'on paye, c'est la force de travail avant qu'elle n'ait créé quoi que ce soit. C'est donc dans cette espèce de retard temporel qui fait qu'on achète la force de travail au moment où elle n'a pas encore produit, et on ne peut faire que comme ça. Le propriétaire de la force de travail ne peut vendre sa force de travail qu'avant qu'elle n'ait produit quoi que ce soit, sinon on entre dans le modèle de l'artisanat, ce qui n'est pas du tout la même chose. Là, je parle du salariat. Et par voie de conséquence, le prix que l'on paye pour la force de travail n'inclut pas, par principe, la valeur qui sera ajoutée par la mise en œuvre de la force de travail. C'est cela la théorie de la plus-value. La plus-value, c'est la valeur qui est ajoutée par la mise en œuvre de la force de travail. Et cette plus-value, par principe, n'est pas rémunérée et n'est jamais rémunérée complètement. Le capital repose là-dessus. Le capital, ce n'est pas simplement... Si vous prenez par exemple des ouvrages d'économie, beaucoup diront que le capital, ça commence avec le fait qu'on prête de l'argent à quelqu'un et qu'au bout d'un an, deux ans, il vous rembourse avec un intérêt. Non, ça, c'est pas ça, le capital. C'est une forme, effectivement, de rentabilité, mais ça n'est pas le propre du capital. Le propre du capital, c'est qu'on achète quelque chose qu'on ne peut acheter qu'avant que ça n'a été mis en exercice, et donc sans pouvoir et sans vouloir inclure la valeur de ce qui sera produit une fois que cet objet, qui est la force de travail, aura été mis en exercice. Ce résumé très grossier vous permet de comprendre la manière dont la projection va se faire de la théorie économique à la théorie politique. Le capital, je veux dire l'œuvre intitulée Le Capital, va commencer par définir ce que c'est qu'un marché et ce que c'est qu'une marchandise. Et ensuite, il va démontrer que la force de travail est une marchandise. Que le capital commence à partir du moment où la force de travail est considérée comme une marchandise qui s'achète et qui se vend. La définition du prolétaire, c'est celui qui n'a que sa force de travail comme propriété. C'est la seule propriété qu'il puisse mettre sur le marché. Le capital est donc un marché où les êtres humains se vendent et se vendant, ils vendent en dernier ressort la seule propriété qui leur demeure, à savoir leur force de travail. La clé de l'inégalité sociale entre l'employeur, le salariant et le salarié, ça n'est donc pas la servitude et ça n'est pas la guerre, contrairement à l'esclavage. Bien entendu, Marx avait lu tout Hegel et il avait parfaitement en tête la dialectique du maître et de l'esclave, qui repose sur la guerre. L'esclavage, dit Hegel, l'esclavage est une forme de servitude qui fondamentalement naît de la guerre. C'est un rapport du plus fort au plus faible, mais avec comme horizon la mise à mort. L'esclave étant celui qui préfère ne pas mourir dans l'instant et devenir esclave. Je laisse côté Hegel, mais simplement je rappelle que la clé de l'esclavage, c'est la violence de la guerre, l'inégalité entre le maître et l'esclave est en dernier ressort une égalité de force s'exprimant dans le combat, pouvant s'exprimer dans le combat, ayant comme horizon la guerre. La clé de l'inégalité capitaliste, ça n'est pas du tout la guerre. C'est, au contraire, le marché, l'achat, la vente, c'est-à-dire la paix. L'inégalité entre salariant et salarié n'a pas pour horizon la violence de la guerre, elle a pour horizon la paix d'une économie qui fonctionne en toute prospérité. Bien entendu, il n'est pas difficile de rappeler qu'il y a des guerres capitalistes, mais, et c'est à mon avis une des grandes forces de la doctrine de Marx, le fait qu'il y ait des guerres capitalistes ne prouve pas que la guerre soit le mode de développement du capital. Si vous y réfléchissez, la différence entre le capitalisme et la féodalité, vous la trouvez là. La féodalité a pour horizon une relation qui est une relation de guerre structurale, même si il peut y avoir un monde de paix au sein de la féodalité. Alors que le capitalisme, tel que Marx le définit, repose sur l'achat et la vente sans intrusion de la force. La forme dominante du capitalisme, c'est le contrat, et Marx, non sans ironie, rappelle que même si dans la réalité l'égalité entre celui qui n'a que sa force de travail comme propriété et celui qui a les moyens d'acheter cette force de travail, même si dans la réalité cette égalité est celle qui existe entre le renard et la poule, il n'en reste pas moins que c'est une égalité contractuelle. Il termine un de ses chapitres en disant, à première vue, tout sur le marché du travail capitaliste fonctionne dans la forme du contrat. C'est librement que celui qui est propriétaire de sa force de travail va la vendre, c'est librement que celui qui a les moyens de l'acheter va l'acheter, c'est librement que le prix est fixé librement, ça veut dire selon les lois du marché qu'Adam Smith a établi, c'est-à-dire les lois de l'offre et de la demande, et c'est donc librement que le prix sera fixé de telle façon que toujours, structurellement, ce qui n'existe pas encore, à savoir le produit du travail, de la force de travail, ne puisse pas être pris en compte et que donc le prix payé pour acheter la force de travail est toujours inférieur à ce que la force de travail va produire. Théorie de la plus-value. Finalement, dans le matérialisme marxiste, la force de travail est quelque chose qui peut créer, est une force qui peut créer quelque chose à partir de rien. Autrement dit, il n'est pas vrai dans le matérialisme de Marx que rien ne se perde, rien ne se crée. La force de travail crée de la valeur. Et la rétribution de cette valeur est perdue. C'est donc un matérialisme où quelque chose se perd parce que quelque chose se crée. Pas du tout à cause d'un Dieu créateur, pas du tout à cause d'un miracle, mais parce que la force de travail est une matérialité singulière dans l'ensemble des matérialités possibles. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du matérialisme, je les orienterai vers l'auteur sur lequel Marx lui-même a travaillé, à savoir Épicure, et en tout cas son disciple latin Lucrèce, qui accorde aux atomes une possibilité très singulière, qui est celle du clinamen, c'est-à-dire celle de s'incliner, de créer une orientation à partir de rien, c'est-à-dire sans force qui détermine cette orientation. Cette possibilité de que quelque chose se crée et quelque chose se perde, c'est ce qui distingue, à mon avis, le matérialisme, disons, réflexif du matérialisme vulgaire. Marx est un matérialiste, mais ça n'est pas un matérialiste vulgaire. Ce que je viens de décrire très grossièrement, c'est l'infrastructure. Sur cette infrastructure se construisent les superstructures de telle façon que, si éloigné, si complexe et éloignée qu'elle soit de leur fondation, ces superstructures se laissent ramener par analyse successive à l'infrastructure, et en l'occurrence à l'infrastructure du capital. Parmi ces superstructures, il y en a une qui a fasciné les mouvements révolutionnaires. C'est la superstructure qui s'appelle le pouvoir politique, le pouvoir d'État, le gouvernement, si vous voulez. Et pendant longtemps, on a analysé la Révolution française comme une vraie révolution parce qu'elle s'est emparée du pouvoir d'État. Elle a décapité le roi. Elle a installé une république. Marx, l'analyse de Marx est tout autre. Il dit, si la Révolution française est une révolution, ça n'est pas seulement parce qu'elle a conquis le pouvoir d'État, c'est aussi et surtout parce qu'elle a touché à l'infrastructure. Elle a touché à l'infrastructure, en l'occurrence, ça n'était pas l'infrastructure du capital parce que le capital ne s'était pas encore constitué dans sa forme moderne, c'était l'infrastructure dans un monde agricole, l'infrastructure de la propriété agricole. C'est-à-dire que la Révolution française a créé la possibilité pour les paysans de devenir propriétaires. Là encore, c'est une nouveauté dans l'histoire du monde à laquelle on ne prête pas suffisamment attention. La question agraire a occupé l'histoire de l'Europe depuis l'Antiquité, et la question agraire reposait sur le fait que les paysans n'étaient pas propriétaires de leurs terres, que ceux qui travaillaient la terre n'en étaient pas propriétaires et que ceux qui étaient propriétaires de la terre ne la travaillaient pas. Ce que la Révolution française a rendu possible, essentiellement par la nationalisation des biens du clergé, c'est la possibilité que des agriculteurs puissent devenir propriétaires. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tous ceux qui travaillaient la terre sont devenus propriétaires, ni inversement que du jour au lendemain, tous ceux qui étaient propriétaires de terre étaient aussi ceux qui la travaillaient. Ça a pris quelque temps. Mais si vous lisez un texte très important de Marx, qui s'appelle « Le 18 Brumaire » de Louis-Napoléon Bonaparte, où il analyse la prise de pouvoir par Napoléon III, et un texte antérieur qui s'appelle « La lutte des classes en France », qui est l'analyse de la Révolution de 1848, le pivot de son analyse, c'est que s'il n'y a pas eu de révolution en France en 1848, c'est parce que la paysannerie, qui avait été la classe révolutionnaire, ne l'était plus, et elle ne l'était plus parce qu'elle était devenue propriétaire. Or, elle était devenue propriétaire par la Révolution française. Autrement dit, c'est la Révolution française qui a rendu, en quelque sorte, non-révolutionnaire la paysannerie. Si on refait l'histoire de la France, toutes les luttes les plus violentes contre le pouvoir central ont été des luttes paysannes. Et ça s'arrête au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que la Révolution française a traité la question agraire. Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, la question agraire avait été affrontée et traitée. Alors évidemment, Marx dira, ce que la Révolution française a fait n'est pas à refaire, ou peut-être même faut-il faire le contraire, je laisse ce point de côté pour le moment, mais il faut faire ce qu'elle a fait de façon structurelle, c'est-à-dire s'attaquer à l'infrastructure. Conquérir le pouvoir, c'est peut-être nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Et c'est ça qui a perdu toutes les révolutions du XIXe siècle, y compris la Commune, c'est qu'elles ont pensé que la conquête du pouvoir n'était pas seulement nécessaire, mais aussi suffisant. Or, elles ne se sont pas attaquées à l'infrastructure parce qu'elles n'ont pas eu conscience, pris conscience, les révolutionnaires n'ont pas pris conscience de la nature de cette infrastructure, à savoir la nature même du capital et la place fondamentale de l'achat et de la vente de la force de travail. C'est cela qu'il va expliquer dans son texte de 1872, la guerre civile en France. La Commune est un acte héroïque. On le compare aux titans montant à l'assaut de l'Olympe. Mais la Commune a échoué parce qu'elle n'a pas pris en compte le bouger qui s'était produit. Le fait que l'infrastructure moderne n'est plus dissimulé, plus enfoui que l'infrastructure ancienne, où en quelque sorte la situation des campagnes se voyait à l'œil nu, la misère des paysans se voyait à l'œil nu. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus masqué. L'injustice, l'inégalité qui tourne autour de la plus-value réclame une analyse beaucoup plus précise et beaucoup plus technique que la misère paysanne. Or, la commune n'en a pas eu les moyens de penser, et donc elle s'est enfermée dans la prise de pouvoir sur Paris, où elle a pris le pouvoir. Elle l'a exercé. Elle a fait des choses admirables. Mais, 10 mars, c'était voué à l'échec. Et par contre-image, en quelque sorte, on peut dessiner l'image de ce que sera la révolution moderne. Première chose, si il faut toucher à l'infrastructure, alors il faut toucher au point essentiel de l'infrastructure, c'est-à-dire à la situation de ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Autrement dit, la révolution sera prolétarienne. C'est le prolétariat qui est la classe révolutionnaire. Ça n'est plus la paysannerie, ça n'est plus l'artisanat, c'est le prolétariat. C'est au prolétariat qu'il appartient de déterminer les mesures qui rendront impossible la continuation ou la renaissance d'un marché de la force du travail. Mais toutes les structures politiques héritées dépendaient de ce marché. Cela veut dire qu'aucune structure héritée, si respectable qu'elle puisse apparaître, si admirable qu'elle puisse apparaître, ne peut être mise au service de la révolution moderne. Il n'y a pas d'héritage de la Révolution française à préserver en ce qui concerne les institutions. Il faut que la page soit blanche, et cela, référence à Rome, quand la page est blanche, quand toutes les institutions antérieures sont mises en suspens, pour un temps, ça s'appelle la dictature, et puisque ceux qui l'exercent, c'est le prolétariat, ça s'appelle la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat a pour objet, d'abord, elle est provisoire. Elle a pour objet, un seul, barrer la possibilité que renaisse le marché de la force de travail. Et pour que ce marché ne puisse pas renaître, il faut s'attaquer à ce qui rend ce marché possible, à savoir la séparation entre ceux qui possèdent tous les moyens de production et ceux qui possèdent uniquement la force de travail. Ce sont des moyens de production qui permettent à la force de travail de produire. Si les moyens de production sont aux mains de quelques-uns, ces quelques-uns ont un privilège inouï par rapport aux détenteurs de la force de travail. Donc, il faut, première mesure, s'attaquer à l'appropriation privée des moyens de production, d'où suit la notion de collectivisation des moyens de production, suppression de la propriété privée des moyens de production. Vous voyez donc qu'on peut, à partir du Capital, tracer tous les traits de la révolution moderne, et c'est ce que Lénine va faire. Maintenant, je voudrais terminer En revenant sur le modèle de pensée, Marx, dans le manifeste, dit que la révolution ne peut pas ne pas arriver, parce que la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. À ce moment-là, il dit que son raisonnement est un raisonnement pratiquement numérique. Le capitalisme industriel crée les conditions de la naissance du prolétariat ouvrier. Le prolétariat ouvrier sera de plus en plus nombreux, alors que les propriétaires des moyens de production seront de moins en moins nombreux. Donc, la révolution ne pourra que se produire et elle sera nécessairement victorieuse. Dans le Capital, et en fait dans la guerre civile, le processus est tout à fait différent. Dans le Capital, la révolution n'est pas nommée. Ce qui est nommé, c'est la fragilisation croissante du capitalisme, qui va rendre possible la révolution et en fait nécessaire, seulement possible, mais nécessaire. Le raisonnement est différent. Dans l'accroissement, le développement du capitalisme industriel, le développement, la part des machines ne cesse de croître. Or, les machines ne créent pas de plus-value. Donc, la part productive de plus-value ne va pas cesser de diminuer. On aura une augmentation globale de la plus-value, mais le pourcentage de la part de plus-value va être de plus en plus faible dans ce qu'on peut appeler les bénéfices, les retours sur investissement du capitalisme. De là, une crise structurale qui ne pourra se résoudre que par une remise en cause des infrastructures. Ce que je voudrais faire remarquer, je ne vais pas discuter la validité des prédictions, je dirais peut-être un mot en conclusion, c'est que ce que Marx a en tête, c'est un modèle qui est le modèle de la dialectique historique. Il a été créé d'abord par Montesquieu. Montesquieu a expliqué que les causes de la décadence de Rome sont exactement les mêmes que les causes de sa grandeur. Et bien de la même manière, les causes de la crise du capitalisme sont exactement les mêmes que les causes de son développement. C'est pourquoi la bourgeoisie crée ses propres fossoyeurs. Si l'on veut réexaminer Marx aujourd'hui, je ne crois pas que le plus intéressant ce soit de regarder les révolutions marxistes qui ont échoué. Clair que l'URSS n'a pas réussi, et c'est clair que la Chine, si elle réussit, c'est plutôt par le biais de l'école de Chicago que par le biais de Marx. Donc, soit, mais ça ne prouve pas que Marx soit réfuté. C'est pas parce que l'application d'une théorie se révèle désastreuse que la théorie elle-même est réfutée. Ça veut dire que l'application a été désastreuse. Point. Non, il y a plus à dire. C'est la question du modèle dialectique. C'est-à-dire l'idée que le capitalisme, en produisant par son mode de fonctionnement propre, par sa croissance, un déséquilibre va nécessairement se mettre lui-même en déséquilibre de telle façon qu'il ne pourra que susciter sa propre destruction. C'est une question qui ne me paraît pas du tout évidente d'avance. Il n'est pas prouvé qu'un déséquilibre permanent entraîne la destruction. Après tout, la marche du bipède, c'est un déséquilibre permanent. Il n'est pas prouvé que le capitalisme ne puisse pas s'accommoder de sa propre crise de telle façon que, en payant correctement la plus-value ici, il continue de la sous-payer là. Autrement dit, ce fameux jeu de bonneteau qui fait que l'injustice ou l'inégalité structurelle du capitalisme peut parfaitement être déplacée en des lieux où elle sera plus supportable ou moins supportable, enfin, un système dont j'ai l'impression que Marx n'a pas suffisamment tenu compte. Il a tenu compte du déséquilibre, il n'a pas tenu compte du fait que le déséquilibre est quelque chose avec quoi on peut fonctionner mal, mais sans disparaître. Je vous remercie de votre attention.
Bonsoir. J'aimerais vous poser deux petites questions. La première, c'est simplement une question de vocabulaire sur le prolétariat, le mot de prolétaire, parce que c'est un vocable qui est utilisé essentiellement dans la théorie marxiste, qu'on a retrouvé assez peu ailleurs, et qui est un marqueur très fort de cette théorie, et j'aimerais en connaître, disons, si ce n'est l'étymologie, disons l'univers sémantique, et pourquoi est-ce qu'il marque à ce point-là cette théorie. La deuxième question, elle est toute simple. Dans un cycle comme les grandes révoltes, je voulais simplement savoir, selon vous, quelle était la scène primitive, si j'ose dire, ou le moment qui, pour Marx, a suscité cette espèce de grande révolte qui s'est projetée dans toute son œuvre et qui, vous avez évoqué au début de votre explication, les éléments biographiques. Mais on a du mal à voir quel a été le moment de bascule qui l'a fait consacrer, parfois au détriment de choses personnelles, puisqu'on connaît les tragédies qu'ont traversées sa vie personnelle, mais qui l'ont amené à produire cette œuvre si, si impressionnante dans sa révolte, justement, conceptuelle, politique, économique, etc., comme vous l'avez évoqué.
Sur le premier point, le terme prolétariat n'est effectivement plus très utilisé en dehors de la référence marxiste. Bon, c'est un terme classique emprunté à l'Antiquité romaine. Ce qu'on appelait les prolétaires, c'était ceux qui n'avaient comme richesse que leur prolesse. Leur prolesse, c'est leur descendance. Autrement dit, ils n'avaient pas d'autres biens que leurs enfants. Et s'ils voulaient les vendre, ben, ils pouvaient les vendre. On pouvait vendre ses enfants comme esclaves. C'était une marchandise. Je pense que c'est par culture classique que Marx a repris ce terme pour indiquer ce point où la notion de propriété, qui est fondamentale, par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme, la propriété est un droit de l'homme. La notion de propriété est réduite à sa plus simple expression, puisqu'en fait, ça se réduit au fait d'être propriétaire en l'occurrence de son propre corps. Donc je pense que c'est en même temps une critique à l'égard de la centralité de la notion de propriété dans les conceptions révolutionnaires, mettons, de la Révolution française. Il y a toute une série d'êtres sociaux qui ne sont propriétaires de rien. Et pour autant, ils ont une existence économique, et d'où la question de la force de travail. Sur le deuxième point, c'est très, je pense, je l'ai dit, je pense que le premier point de révolte, c'est, comme chez tous les intellectuels allemands nés à ce moment-là, c'est l'unité allemande. L'unité allemande qui s'accompagne de la conviction que si l'Allemagne n'a pas trouvé son unité après 1815, alors que normalement, entre guillemets bien sûr, c'est en tout cas la conviction qui régnait chez les intellectuels allemands, la lutte contre Napoléon du peuple allemand aurait dû se conclure par une unité allemande. Si cette unité ne s'est pas produite, c'est parce que les intérêts des princes, des dynasties, des grands féodaux, disons de l'ordre établi, l'ont emporté. Donc l'égoïsme l'a emporté. Je pense que c'est un élément important qui explique en tout cas son désir de rejoindre Paris. Et des textes qui se terminent en disant, eh bien, le réveil du peuple allemand sera annoncé par le coq gaulois. Autrement dit, c'est en suivant l'exemple du peuple français que le peuple allemand pourra sortir de son abaissement. Et puis, c'est encore à Paris qu'il pense, éprouve, se rend compte du fait que la question du peuple allemand n'est pas la question fondamentale. Que le peuple allemand, globalement, ça ne veut rien dire. Que les ouvriers français sont plus proches des ouvriers allemands qu'ils ne sont proches des bourgeois allemands. Enfin bon, l'analyse de classe commence à prendre le pas sur l'analyse en termes nationaux. Elle ne va pas cesser. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout se réjouir de la victoire de l'unité allemande de 1871. Il considère que c'est une fausse unité allemande qui est en vérité une invention de la bourgeoisie allemande qui se reconnaît dans Bismarck et qui présente au peuple allemand et notamment à la classe ouvrière allemande une espèce de fausse idole, mais ce n'est absolument pas une véritable unité populaire. Donc je pense que le moment de révolte se constitue par la rencontre de ce qui était à ses yeux, à ce moment-là en tout cas, la capitale de l'Europe, qui était Paris, avec une classe ouvrière en tout cas perceptible. Le thème de l'ouvrier est très, très présent dans la littérature française à ce moment-là. Donc je pense que c'est... Même si Engels va lui expliquer que c'est pour voir des ouvriers, il vaut mieux aller en Angleterre plutôt que rester en France, c'est quand même là que quelque chose s'est produit.
Bonsoir. Je ne sais pas très bien comment formuler ma question, mais voudriez-vous revenir sur ce que vous évoquiez au début ? Vous avez parlé de Marx, de Proust et de l'écriture. Alors après, il y a un mot qui m'échappe. Persécution. Vous voyez de quoi je veux parler ? Écriture sous persécution, écriture sans persécution, une nouvelle façon d'écrire. Il fallait envisager ces œuvres-là, en tout cas ce qui s'est écrit dans le XIXe siècle. autrement que ce qui était produit avant et après.
Oui, c'est cette première remarque. Oui, je crois qu'effectivement, il y a une très grande rupture entre l'écriture du XIXe siècle et l'écriture du XVIIIe siècle. L'écriture des plus grands auteurs est une écriture au XVIIIe siècle où la possibilité de la persécution est toujours à l'horizon. Quelqu'un comme Voltaire, par exemple, se sert de la moquerie pour se protéger lui-même. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire passer des propositions politiques, disons, audacieuses, en s'appuyant sur les enveloppant dans un vêtement de raillerie, de moquerie. Pour Montesquieu, c'est un peu différent. Mais Voltaire, par exemple, comme je l'expliquais, a vu des gens qui lisaient ses livres être condamnés. Et l'un d'entre eux a eu l'exemplaire de Voltaire qu'il avait lu cloué sur sa poitrine. Ça veut donc dire que la persécution de Voltaire en tant qu'auteur était présente. De la même manière, quelqu'un comme Rousseau, insiste toujours sur le fait qu'il n'est pas sujet français, il est citoyen de Genève, considère qu'il est toujours possible qu'il soit chassé de France, ce sont des réalités. Alors que même si la persécution existe au XIXe siècle, les écrivains, les plus grands d'entre eux, écrivent comme si la question ne se posait plus. Marx écrit Le Capital, où en gros il explique que Le Capital repose sur un vol, en vérité, sans tourner autour de ce qu'il a à dire, sans le revêtir d'un masque de raillerie. Même chose chez Darwin. Et j'ai cité l'exemple de romancier. Quelqu'un comme Zola, par exemple, qui va très loin. Décrit J'accuse, décrit dans un journal, un grand article en première page, qui met en cause l'état-major et le gouvernement, enfin, bon, c'est ça le titre, J'accuse. Il le fait en étant convaincu qu'il va avoir des ennuis, mais qu'il ne sera pas persécuté. C'est-à-dire qu'il aura des ennuis, ça veut dire qu'il aura, il sera insulté, enfin bon, mais il ne sera pas persécuté. C'est-à-dire qu'il est sûr de ça. Il se trompe d'ailleurs dans une certaine mesure, mais il est sûr de ça. Même chose chez Victor Hugo. Victor Hugo est certain que, oui, il sera peut-être obligé de quitter la France, mais la notion de persécution telle qu'elle existait précédemment, même si elle existe, c'est du passé. Elle n'a pas d'avenir. Chaque année qui passe la rend... Or, le XXe siècle a fait l'expérience du contraire. C'est pour ça que ceux qui ont grandi, commencé à écrire au XXe siècle, ont fait l'expérience inverse, et c'est encore plus vrai au XXIe siècle. Donc l'écriture, n'est pas, à mon avis, la même. Je ne suis pas sûr que Marx, s'il avait à écrire aujourd'hui l'équivalent du Capital, le ferait sous cette forme. Il faudrait qu'il trouve d'autres moyens.
Oui, bonjour. Et vous avez dit que nous savons tous que la théorie de Marx n'a pas bien été appliquée dans des pays, dans la Chine ou dans l'ancienne Union soviétique, ni non plus dans d'autres pays d'Amérique latine. Est-ce que vous pourrez nous expliquer, à votre avis, quels sont les principaux points dérapages, bon, qu'ils sont des, ne pas bien appliquer la, la théorie des Marx.
Je crois que, premièrement, mais ça c'est un peu trop compliqué et long pour que j'entre dans le détail, mais je pense que la lecture que Lénine a faite de Marx n'est pas sans défaut, disons, au moins ça. Mais surtout, je pense que la question de la disparition d'une classe, la disparition des classes, est quelque chose de très compliqué. Et je ne suis pas sûr que Marx l'ait vraiment traité, mais la solution qui a été adoptée, que ce soit en URSS ou que ce soit en Chine, à savoir il y a des classes qui doivent disparaître, par exemple en URSS, la bourgeoisie doit disparaître, en quelque sorte, en un jour, Lénine décide de nationaliser les comptes en banque. Donc, du jour au lendemain, tout ce qui permettait à la bourgeoisie de fonctionner, je parle de la bourgeoisie de gens comme nous, enfin, de fonctionner, c'est-à-dire d'avoir des économies qui leur permettaient de payer des domestiques, d'acheter des choses, ils ne l'ont plus. Donc, ça, c'est pour ça que Lénine l'a fait. C'est la disparition de la classe moyenne. Pas simplement de la classe supérieure, mais de la classe moyenne. Celle qui n'a justement que le compte en banque, qui n'a pas des terres, qui n'a pas des biens à l'étranger. Vraiment. Bon, faire disparaître une classe, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable du point de vue de la conception que Marx avait de la Révolution? J'en suis pas convaincu. Faire disparaître la classe intellectuelle, comme la Révolution culturelle l'a fait, ou la paysannerie, comme ça se passe actuellement, puisque ce que la Révolution culturelle a fait, c'est renvoyer les étudiants dans les campagnes, mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on chasse les paysans des campagnes. Supprimer les classes sociales, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout inclus dans la conception que Marx avait d'une révolution. Maintenant, je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que Marx a été relativement discret là-dessus. Le contenu de la dictature du prolétariat n'est pas extraordinairement explicite. Mais si on prend par exemple la Commune, la Commune ne s'est jamais donné comme idéal de faire disparaître une classe de la ville de Paris. Elle pouvait considérer que les loyers devaient être limités, enfin, des choses de ce genre-là, mais pas faire disparaître une classe. C'est sur ce point-là que je crois que quelque chose se passe entre le marxisme de Marx et le marxisme-léninisme et les révolutions qui se sont réclamées du marxisme-léninisme.
Oui, merci. Bonjour. Lorsque vous disiez qu'aujourd'hui Marx n'aurait pas écrit de la même façon, lorsque vous reveniez sur le 19e siècle qui suivait un siècle d'oppression, un siècle de quel était le mot déjà, de persécution, est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est en réaction à ce siècle de persécution qu'il y a eu ce sentiment de liberté voilà, au 19e siècle, au moment où cette persécution diminuait? Ou est-ce que vous pensez que maintenant, au 21e siècle, il y a une forme de persécution qui reviendrait?
Voilà. Oui, je pense que, en tout cas, l'horizon, l'idée que la persécution est une chose du passé, c'est-à-dire qu'il y en, même s'il y en a encore, que c'est quelque chose qui est déclinant, qui va disparaître de plus en plus, j'ai l'impression que cette conviction, on ne l'a pas. On a plutôt le sentiment que la persécution est quelque chose qui a un certain avenir. Et ça, c'est très, très différent comme point de vue. Au XIXe siècle, je répète, bien entendu, la persécution existait. Il y avait un pays comme la Russie. La Russie est un pays persécuteur. Dostoïevski a été envoyé en Sibérie pour... même pas d'ailleurs pour des écrits, mais enfin, peu importe. La persécution, il y avait des pays où la persécution existait, des pays qui n'étaient pas des petites puissances. Je parle de la Russie, c'est une grande puissance. Mais tout le monde considérait que c'était voué à disparaître. J'ai l'impression que cette conviction-là n'est plus présente. En tout cas, ne serait-ce que parce que nous ne sommes plus dans la position de ceux qui, au XIXe siècle, découvraient comme une nouveauté l'horizon de la disparition de la persécution, nous ne sommes plus dans cette position-là, au moins pour cette raison, notre rapport à l'écriture est différent. Mais je pense en plus que, en tout cas, me semble que beaucoup de mes contemporains ne sont pas convaincus que la persécution soit disparaissante. Je pense qu'elle a plutôt tendance à réapparaître. Si vous voulez, la persécution est toujours fonction d'un danger perçu par des puissances. Quand la puissance que représentait l'Église percevait un danger, je pense l'Église catholique, je veux dire, en France, quand elle percevait un danger, eh bien, elle répondait par la persécution. Elle l'a fait jusqu'à une date relativement tardive, jusqu'au XVIIIe siècle au moins. Et ça s'arrête de la part de l'Église catholique française avec la Révolution. Ça veut dire qu'on peut dire que la Révolution nous a délivrés en France de la persécution catholique, qui existait encore au XVIIIe siècle. Et pour la France, je parle de l'Église catholique, pour l'Angleterre, il y a des formes de persécution différentes, mais vous avez peut-être vu le film sur le logicien Alan Turing et la manière dont la minorité homosexuelle a été littéralement persécutée en Grande-Bretagne au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, alors que la Grande-Bretagne était, aux yeux du monde, le pays le plus libre du point de vue des libertés civiles. Donc, les angles par lesquels la persécution peut revenir sont des angles différents et nombreux. Donc tout dépend du danger qui est perçu par des institutions puissantes. Aujourd'hui, je suis frappé par le fait que les thèmes du danger sont de plus en plus présents dans le discours politique. Le thème, nous vivons dans une situation dangereuse, je parle pour la France, mais pas seulement, dans beaucoup de pays européens, aux États-Unis, plus les thèmes du danger apparaissent, plus les angles pour une justification de la persécution vont se multiplier. C'est cela qui me trouble. Et si nous acceptons, je ne dis pas qu'il n'y ait pas, qu'il faille pas réfléchir à des dangers, c'est pas ça, mais si on accepte le langage du danger comme une sorte de langage indépassable, alors je crois qu'on accepte aussi la persécution comme remède, comme contre-mesure au danger. Aux États-Unis, la lumière n'est pas faite sur ce qui se passe à Guantanamo. C'est-à-dire que les États-Unis sont un pays libre, démocratique, on a un président qui, je parle d'Obama, qui a été salué par beaucoup de gens comme un homme de liberté et de paix, mais la prison de Guantanamo existe toujours et nous ne savons pas vraiment ce qui s'y passe. Et nous ne savons pas vraiment si ce qui s'y passe relève ou non de la persécution. Et je n'écarte pas la possibilité que ça relève de la persécution parce que le thème du danger est très présent aux États-Unis, mais comme il est présent en France. Donc c'est cela qui me trouble, qui me donne à penser, si vous voulez. Mais après, vous dire quelles sont les formes de persécution, ça, l'Église catholique utilisait le bûcher en France, dans d'autres pays, il y a d'autres moyens. On peut persécuter quelqu'un sans le faire mourir, vous savez, il y a différentes formes. L'histoire de la Russie soviétique montre une gamme de persécutions assez étendue. Mais moi, je n'ai pas cette capacité d'invention qu'avait le KGB, donc je ne peux pas vous répondre. Très bien, mais je vous remercie.